L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Du haut de sa grue, Salvador domine son chantier et la ville. C'est un homme heureux, comblé par la femme qu'il aime et son premier enfant qui va naître. Mais tout d'un coup, alors qu'il contemple perplexe le trou apparu au bout de sa chaussette en laine, il est aspiré par cet espace entre les mailles et chute dans de profonds abîmes. Et voici Salvador perdu, dans un univers peuplé de curieux protagonistes, de ses fantasmes, de ses pires angoisses et de ses propres souvenirs. Sa quête peut alors commencer. Mais chercher quoi ? Peut-être la vérité sur sa mère, l'enfant qu'il a été, ou le père qu'il pourrait être. Le roi du jour et de la nuit est comme un Alice au pays des merveilles dans l'univers de David Lynch, une fantaisie littéraire où les clés se cachent au bout d'étranges sentiers. Je viens de vous lire la quatrième de couverture de Le roi du jour et de la nuit, un livre paru aux éditions. Et ben voilà, je ne l'ai pas noté.
La Manufacture.
Merci. Aux éditions La Manufacture des livres. Son autrice est avec nous aujourd'hui dans Aéropage sur Radio FM+. Bonjour Anne Bourrel.
Bonjour Nathalie.
C'était bien, comme ça on a entendu un peu votre petite voix.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est paru à La Manufacture des livres. Anne Bourrel, parlons déjà un petit peu de vous. Anne, nous nous sommes rencontrés en avril 2022 pour Le Dernier Invité. Et depuis cette rencontre, eh bien, une sortie littéraire en mars. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui.
Mais moi aussi.
Vous allez bien ?
Ça va,
très
bien.
Un peu maladou.
Non, ça va.
Donc une petite bio rapide pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Vous êtes née dans les années 70 à Carcassonne.
En 70 même,
ah, on peut dire. Mais moi j'aime bien les années 70. Ça laisse une grande marge comme ça. Moi je suis née dans les années 50. Hein, comme je suis née en 59, ça le fait moins. Vous êtes née donc en 70 à Carcassonne. Et vous vivez et écrivez à Montpellier. Vous suivez des études de lettres à Montpellier, à Twickenham, que je ne connais que pour le foot, d'ailleurs, je crois.
Le rugby, non ?
Vous avez raison. Vous êtes professeur de langue en Angleterre, puis à votre retour en France, vous travaillez dans le domaine des ressources humaines avant de vous consacrer pleinement à l'écriture, pour notre plus grand plaisir. Vous êtes romancière, dramaturge, vous êtes déjà lauréate de 6 prix littéraires, il y en a peut-être eu d'autres depuis ?
Eh ben non, j'en attends un 7e, ben voilà. Avec impatience.
Vite fait, allez, d'ici la fin de l'émission. Alors déjà une question, comment on passe des ressources humaines à l'écriture ?
Non, on est dans l'écriture et on va dans les ressources humaines pour gagner des sous comme on peut, c'est le hasard qui m'a amenée là et j'en suis repartie assez rapidement.
Et est-ce que quand même dans les ressources humaines, il y a l'observation des autres ? Parce que bon, c'était ça que vous aviez à faire ou pas du tout ?
C'était tellement bref ce passage, ouais. Ça a duré même pas un an. En fait, je me suis retrouvée à enseigner le français au bout de cette année-là. Ouais. En tant que directrice des ressources humaines, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient de Géorgie et qui ne parlaient pas. Donc finalement, je me suis dit, le professorat ne me lâchera pas ou quoi ?
Après, on peut parler aussi de vos écrits. Hein. Donc, le premier que j'ai trouvé, c'est Contrebande ?
C'est le premier non, livre. Alors le tout premier, c'est Charol. C'est un livre de poésie que j'avais fait avec un photographe à sa demande.
D'accord.
Et c'était un travail qui m'avait beaucoup plu, où j'avais pris les photos qu'il avait faites d'endroits très connus des Pyrénées, mais pas des points de vue auxquels on s'attend d'habitude. Et moi, j'avais pris ces photos, je les avais toutes reliées et ça avait fait une île. C'était l'histoire d'un homme qui retrouvait son île.
Et c'est encore disponible ?
Je ne sais pas. Ah, ça doit se trouver par-ci, par-là.
Je fais une petite recherche. Donc, le premier dont on parle, alors évidemment, sur notre site ami et partenaire Babelio, c'est Contrebande, qui est un roman sonore et qui est votre premier roman noir qui paraît en 2022, donc il y a déjà une vingtaine d'années. Qu'est-ce que c'est qu'un roman
2002
sonore
pour le
2002,
coup.
Pardon, oui.
Non, parce que je décris beaucoup le bruit des doigts sur le clavier. Donc voilà, je m'étais amusée à le baptiser roman sonore. Mais ce truc-là, il est très très mal publié. C'était vraiment... Ça s'est fait... j'étais en maîtrise ou en DEA, je ne sais plus, à l'époque. Et mon directeur connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, lui a filé le truc. J'ai pas eu le loisir d'envoyer le texte à des maisons d'édition. Et je regrette un peu parce que... voilà.
Il n'a pas été soutenu ou il a pas
non,
été...
Non, c'était un premier essai, on va dire.
Et ça vous a donné envie de retravailler dessus un jour ou pas? Ou ça fait partie du passé?
Ouais, j'y ai pensé, mais ouais, il faut j'avance.
Et après, donc, vous êtes remarqué par Lilian Batelot, qui est romancier aussi, hein, connu sur Montpellier.
Oui.
Que j'essaye d'avoir en interview. Alors, depuis un petit bout de temps, Lilian.
Après, je peux t'aider. Après Contrebande, il y a eu le roman de Laïd. Ça, c'est un roman qui m'a pris beaucoup de temps à écrire. Et j'ai rencontré un éditeur formidable, Kaya Makele, qui est un Congolais qui a vécu une belle vie pleine d'aventures. Et lui, quand même, c'était le premier éditeur vraiment sérieux. C'était une belle aventure.
Je voulais qu'on en parle, parce que je ne vous mens pas, mais sur mon déroulé, c'est marqué en 2008, votre deuxième livre, le roman de
Laïda. Voilà, c'est ça.
Je voulais que vous en parliez.
Avant que Lilian se mêle à mon histoire.
Donc le roman de Laïda, qui est une enquête sur la mémoire de la guerre d'Algérie.
C'est ça, oui. Ouais. Parce qu'à l'époque, en fait, j'habitais déjà à Montpellier, et toutes sortes de gens venaient me parler de la guerre d'Algérie, ou de la période... avant, après. C'était très troublant, parce que moi, j'ai aucun rapport familial avec l'Algérie. Mais tout le monde venait me raconter ça, quoi. Donc, j'ai eu des récits incroyables de toutes sortes de gens, de tous les membres intéressés par l'époque.
Et donc, je me suis dit, de la communauté pieds noirs, tout le monde.
Si, des pieds noirs, des harkis, de toutes sortes de gens, quoi. Et des porteurs de valises aussi, ça c'était vachement intéressant. Il y avait toutes sortes de gens, donc je me suis dit, va falloir creuser, il y a quelque chose. Et le hasard a continué à me pousser vers ça, donc j'ai écrit ce roman.
Et par contre, cet éditeur-là, lui, a poussé.
Il a fait son très travail. Présent. Oui, il a été présent à mes côtés.
C'est quelle maison d'édition? C'est encore disponible?
À Coria.
D'accord.
Oui, je pense que c'est encore
on le mettra en lien pour en parler un petit peu. Et donc, après ce roman de Laïd, vous êtes remarqué donc par notre ami Lilian Batelot. Voilà.
Reconnaissance éternelle envers Lilian, qui m'a aiguillée vers la manufacture de livres avec qui je suis depuis.
Depuis les années 2010, Et là, vous publiez Grand Madams.
Oui.
Et donc, selon Babelio, marque votre entrée dans le monde littéraire et éditorial. C'est important pour vous d'être dans une vraie maison d'édition, justement?
Ah bah oui, bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, c'est terrible, parce que le poids dans le monde éditorial, le poids des auto-édités ou édité à compte d'auteur, qui est exactement de l'auto-édition, sauf qu'il y a des maisons d'édition qui se gavent entre-temps. Ça prend une part de plus en plus grande. C'est difficile de trouver une maison d'édition, justement.
Oui, et puis ça fait pas du bien au métier, en fait. Dans une maison d'édition professionnelle, on a un correcteur. On a toute une équipe autour de nous qui connaît son travail et qui le fait le mieux possible.
Et l'éditeur, il vous demande même des fois de reprendre, par exemple, des textes ou d'enlever ou d'élaguer.
Alors, le mien, non. Pierre Fourniaud, il estime que lorsqu'un texte lui plaît, il doit rester comme il l'a aimé. Voilà. Après, on discute de points de détail, de toutes petites choses.
Et cette jaquette labyrinthique, c'est aussi lui qui vous la propose?
Alors, c'est toute l'équipe qui discute c'est toute l'équipe qui discute de le type de couverture qui va aller avec chaque texte. Ensuite, ils font un premier choix de 5-6 images et ils le proposent à l'auteur. Sachant que l'auteur n'a pas de droit de veto.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire non, ça ne me plaît pas du tout.
Non. Et il peut donner son avis qui sera entendu ou pas. Alors moi j'en avais choisi deux. un peu du même genre. Et en fait, c'était mon premier choix qui a été choisi avec la couleur de la deuxième. Donc c'est genre... Ouais,
alors la couverture, il faut dire, hein, on la mettra aussi dans le podcast, mais on dirait presque un tableau des chairs.
Voilà, tout le monde me dit ça. Ouais. Ouais. Ouais.
Sauf qu'il y a ce petit personnage qui se répond et qui essaye de grimper la montagne, mais on ne sait pas par quel bout et
voilà,
jusqu'où.
C'est un peu ce qui arrive à mon personnage.
Voilà, c'est ça. Et puis, vous publiez ensuite, donc toujours à la manufacture de livres, L'invention de la neige, puis du théâtre, avec Wally Show, théâtre flamenco, en 2016, et en avril 2018, Le dernier invité.
Et en avril 2018, Voyez comme on danse pour le théâtre.
Et Voyez comme on danse, voilà, oui. Une pièce sur le tango. Alors, en off, vous me disiez...
Alors, c'est pas sur le tango, ça se passe dans un endroit où on danse le tango, qui s'appelle une milonga, qui pourrait être à Buenos Aires, mais qui pourrait être partout dans le monde, parce qu'on danse cette danse partout dans le monde. Et avec cette pièce, on a eu le 6e prix de la liste. Le prix du festival de Cognac, quand même, c'était pas mal. Et là, on la reprend, ouais. On va la reprendre et vous allez pouvoir assister à la sortie de répétition les 15 et 22 février.
On le rappellera ?
Oui.
Ouais, je l'ai noté, moi, sur mon... Voilà. Je le rappellerai pour le dire en matinale et puis surtout pour essayer d'aller le voir. On a parlé de poésie au début, de théâtre, de romans noirs. C'est facile d'aller d'un genre à l'autre comme ça ?
Ouais, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir...
Si c'est facile ou pas ?
Non, ça c'est un problème. Hein. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est de savoir si je suis noire ou pas noire.
Ouais.
Parce que des fois, on me classe dans écrivain noir et des fois, je suis dans la blanche. Donc, en fait, j'aime bien toutes les couleurs.
Oui, parce que non, c'est vrai que le dernier invité, il y avait quand même un...
Eh bien, celui-là, il était classé dans la blanche.
Ah ouais.
Non, pas policière, jamais policière. Non, Nathalie. Enfin, Nathalie, allons.
Non, alors c'est pas... Oui, c'est vrai, c'était pas policière. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Alors, est-ce que, comment notre consoeur nimoise...
Non, parfois, on me classe dans la littérature noire parce que, disons que mes personnages ont tendance à pas y aller avec le dos de la cuillère et quand ils ont un problème, ils savent pas trop le résoudre gentiment. Voilà. Et qu'il y a un aspect parfois social aussi qui correspond à la définition du roman noir. Mais je suis quand même beaucoup plus tendre que certains de mes camarades du roman noir.
Mais c'est terrible comme ça d'être classifié.
Ouais, bon. C'est mais à la manufacture de livres, c'est fini. Cette classification n'existe quasiment plus.
Peut-être encore dans les écoles de librairie pour voilà, les rayonnages, que ce
oui,
soit bien
voilà,
très classé dans un rayon.
C'est un aspect facile à classer, mais... Franchement, l'ordre alphabétique suffit. Hein.
Non, mais je suis sûre qu'il y a que ça, il y a de ça. Hein. C'est aussi, voilà, c'est, on a besoin.
Il y a des tas de pays où ça n'existe pas.
Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les romans noirs, c'est tellement. Enfin bon, il y en a qui sont noirs, mais qui sont complètement très très littéraires. Et puis où il y a pas de flics, où il y a pas de. Enfin oui, il y a juste.
Mais alors moi, il y a
montée,
jamais eu de flics.
Voilà, ouais. C'est juste une montée dramatique qu'on peut trouver dans les romans noirs.
C'est ça.
Et puis, il y avait quelque chose dont je voulais vous parler aussi, c'est que vous aimez lire et performer vos textes, accompagner divers artistes et des musiciens. J'ai vu un petit bout de cet exercice à la médiathèque lors de la rentrée littéraire.
Ouais, bon là, c'était juste
c'était
une lecture.
C'était le texte de quelqu'un d'autre, voilà. Mais là, pour vos textes, vous le faites et vous aimez faire ça aussi ?
Oui, j'aime bien faire ça. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour Le Roi du Jour et de la Nuit. On a fait deux teasers avec... Jean-Michel Fournier. J'hésitais parce que je ne savais pas si je le présentais sous son nom, son vrai nom ou son nom d'artiste qui est M-O-I, M.O.I. Voilà, donc on a fait deux teasers qui sont visibles sur le net, sur le site de la manufacture, sur
D'accord.
YouTube. Et on pense faire une lecture en live là, bientôt, dans les mois qui viennent.
Qu'est-ce que ça rajoute de dire son propre texte ?
Eh ben, ça le fait vivre en direct face au public. Parce qu'on n'a pas le contact direct avec nos lecteurs, à part dans les festivals quand ils viennent se faire signer le livre, mais ça reste de l'ordre du bonjour, bonsoir. Tandis que quand on est face au public en train de lire et qu'on est à nu, finalement, comme on peut l'être sur scène, il se passe des choses avec le public qui m'intéressent beaucoup, qui est de l'ordre du spectacle vivant. Et puis, on lance des rubans, quoi. Il y a un lien qui se fait avec eux.
Et le fait de dire ces mots avec sa voix, par exemple, est-ce qu'il y a des versions audio? Est-ce que la manufacture fait des versions audio?
Non, il y a les teasers.
Ouais. Et ça vous plairait de lire entièrement le livre, justement?
Oui, j'y pense, ouais. Oui.
Parce que bon, il y a de plus en plus de gens qui font...
Je voulais faire Grand Madame, c'est un live, toute une journée, toute une nuit, avec des musiciens qui passaient. Et je ne suis pas arrivée à imposer ce projet.
Hein, ouais. Un projet, ouais. C'est courageux, enfin c'est fatigant mais courageux, parce que bon, c'est vrai que ça apporte quelque chose aussi. Alors si en plus on met de la musique avec, c'est encore plus fort.
Voilà, c'était l'idée. Mais donc ce sera fait pour Le Roi du Jour et de la Nuit bientôt.
Oui, c'est bien, vous nous le direz. Oui. Ça sera disponible. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, la version, par exemple, aussi la manufacture des livres, elle fait des versions numériques aussi, téléchargeables sur les tablettes.
Oui, elle a fait, oui. Oui.
Ça, c'est de plus en plus maintenant.
Hein. Oui.
Moi, je ne m'y suis jamais mis. Vous aimez le support numérique pour lire?
Moi, j'aime le papier. J'aime le papier.
Et j'aime pas le cornet. J'aime pas écrire dessus non plus.
C'est-à-dire que...
Prendre des notes.
Ça dépend du livre. Ouais. Ça dépend. Moi, j'aime bien prendre des notes.
Ah, vous prenez des notes?
Ouais.
Non, quand je prends des notes, moi, je mets des post-it. Je suis la reine du post-it.
Ouais, non, ben justement, chacun son truc. Moi, c'est le petit coup de crayon gris. Ouais.
Voilà.
Crayon à papier.
Anne, vous savez qu'il y a toujours une page musicale, deux pages musicales même dans cette émission Aéropage. Et vous avez choisi pour nous Dave Brubeck, Take Five. Pourquoi ce choix?
Parce que ça fait partie du livre. C'est une des musiques qui est importante dans le livre.
C'est une musique que vous écoutez vous-même?
C'est une musique qui m'accompagne depuis longtemps. Ouais. Et c'est une musique même familiale.
Ouais, c'est vrai que je n'ai pas de cancer des années 50, je pense, mais bon.
Oui, c'est des années 50.
Et oui, c'est formidable. Tout le monde connaît d'ailleurs un peu, hein, mais
ouais,
voilà, c'est dans notre culture globale.
Ouais, voilà.
On écoute.
Thank you.
Eh bien, toujours dans Aéropage, toujours sur Radio FM+, et avec Anne Bourrel, qui nous parle du roi du jour et de la nuit. Alors, ce roi, il s'appelle Salvador. Le livre commence en haut d'une grue, après la pause déjeuner. Et on rencontre donc Salvador, qui est grutier, qui observe le monde d'en bas. Celui qui est en bas, hein, il ne la regarde pas d'en bas. Comment est né Salvador dans votre imagination, Anne ?
Alors, il est né de manière très concrète. J'habite en face du chantier du Nouveau Saint-Roch. Donc pendant des années, ça fait des années que je vois des grues. Et j'adorais regarder ces grues, surtout la nuit, qui s'éclairaient avec plein de petites lumières. Vraiment, j'ai kiffé la grue.
Donc c'est la grue qui a amené Salvador.
Et c'est la grue qui a amené Salvador. Un jour, je suis tombée sur un article qui parlait des grutiers. Et immédiatement, j'ai écrit la première phrase. C'est arrivé tout de suite comme ça. C'est rare que les premières phrases m'assaillent à ce point, mais celle-ci, elle m'est tombée dessus, quoi.
Et tout de suite, ce Salvador, enfin moi je trouve que bon, on va le suivre pendant plus de 250 pages, mais il a vraiment une épaisseur. Enfin, c'est quelqu'un qui est... je sais pas, c'est difficile de dire ça, mais oui, c'est vraiment une épaisseur même dans son corps, dans la description que vous en faites. Physiquement, c'est quelqu'un qui prend de la place, Salvador, je trouve.
Mais déjà, comme il était arrivé de manière assez brutale et pour le coup concrète, j'ai essayé de garder ce côté très concret en me renseignant très précisément sur qu'est-ce que c'est qu'être un grutier, qu'est-ce que c'est que le travail du grutier. Et j'ai contacté plusieurs personnes qui m'ont amené à les interviewer. Il y en avait...
Vous n'êtes pas montée ?
Alors, je ne suis pas montée parce qu'au Nouveau-Saint-Roch, quand je suis allée voir le chef de chantier pour lui demander, il m'a pris pour une dingue. Voilà, ça arrive. J'ai pas dû savoir comment lui parler. Et donc, voilà, ça a été « Rentre chez toi, ma grande ».
Parce que c'est une petite bulle à l'intérieur, c'est pas un espace, c'est
et donc,
une petite
bulle. Et donc, par contre, en demandant à des gens que je connaissais, s'ils connaissaient, etc., je suis arrivée à rencontrer 4 grutiers. Et 2 d'entre eux m'ont invitée à passer l'après-midi avec eux virtuellement.
D'accord.
Donc, en fait, c'est comme si j'y avais été. Il manquait plus que les sensations du vent et tout ça, mais après ça, je peux les imaginer. Mais sinon, j'ai travaillé avec eux 2 après-midi entières. Et puis, ils étaient très bavards en plus, donc c'était génial. Je pouvais leur poser plein de questions et tout ça. Donc, évidemment, je pense que le personnage s'est nourri de ça. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais faire.
Parce qu'il est... Bon, on comprend bien que c'est petit quand même. Hein. C'est une bulle.
Ah oui, c'est tout petit.
C'est même pas comme un gardien de phare, parce qu'il est en hauteur aussi comme un gardien de phare. Hein.
Ouais.
Il surveille le monde.
Oui, oui, c'est minuscule. Hein. C'est minuscule. J'étais très étonnée. Je croyais que c'était beaucoup plus grand.
Et c'est même difficile de déployer son corps, quoi. C'est-à-dire, ouais. C'est pas...
Oui. J'avais besoin, en tout cas, de travailler ce personnage de manière concrète. Parce que je savais qu'il allait vivre des choses qui étaient de l'ordre de l'onirique. Et s'il n'y avait pas eu le poids de la réalité, je pense qu'il se serait envolé et je ne serais pas arrivée à ce que je voulais faire.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut, faut des âmes construites quand même. Parce que bien sûr qu'il y a cette petite bulle. Il y a le fait que oui, on est secoué par le vent, on est très sensible aux éléments, hein. Il y a des moments d'ailleurs on ne peut plus y aller quand il y a trop de vent.
Ouais, 75 km/h.
Et puis il y a la solitude quand même, c'est qu'il n'y a pas...
Alors ils ne sont pas vraiment seuls parce qu'ils sont tout le temps en contact radio avec le reste du chantier. Et dans les moments où ils n'ont pas trop de travail, ils peuvent discuter avec leur famille, avec les écrivains qui veulent savoir ce qui se passe.
C'est ce que vous expliquez d'ailleurs au début du livre, puisque le chantier commence.
Voilà.
Il a encore du temps.
Voilà. Quand le chantier commence, ils ont des moments tranquilles. Mais ils sont tout le temps ils sont tout le temps en veille quand même. Je voyais bien qu'ils surveillaient tout ce qui se passait, parce que d'eux dépend beaucoup de choses.
Oui, c'est d'ailleurs, je pense, des postes qui doivent être relativement bien payés, parce que c'est pas non plus...
Oui,
c'est déjà,
en plus. Hein, voilà. Et les femmes sont très appréciées dans ce métier aussi. Il paraît que les femmes sont de très très bonnes grutières.
Grutières, ah, voilà, un métier d'avenir.
Oui.
Alors, une fois que, bon, voilà, il y a cette mise en... Voilà, qu'on met le personnage dans cette bulle. On commence chaque chapitre. Alors, ça aussi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que chaque chapitre commence par 3 mots-clés du chapitre.
Oui, qu'on va retrouver dans le chapitre ou pas.
Ah oui, ben je voulais vous le demander, parce que en définitive,
c'est purement poétique,
voilà,
en fait.
Hein, voilà. Donc le premier, là, oui, on les retrouve, parce qu'il y a papier, voilà. Veste et trou.
Oui.
Donc c'est le papier du sandwich qui finit, qui déballe en tout cas. Cette veste qu'on va suivre partout, moi cette veste, elle me...
oui.
Hein, voilà. Et puis le trou dans la chaussette. Donc là, c'est les premiers. C'est justement ce trou dans la chaussette qui va le faire plonger et qui va le mettre face à ses peurs, à ses colères. Cette plongée, oui, vous l'avez dit le terme, mais elle est très onirique. C'est vraiment un rêve qui commence.
Oui, alors Salvador, il est assis à son poste de travail et il tombe dans le trou de sa chaussette. Quand je raconte le début du roman, souvent on me dit « Ah, mais c'est un livre jeunesse ». En fait, c'est pas youpillé, il tombe dans le trou de sa chaussette.
Non.
Quoique les livres jeunesse sont pas toujours youpillés, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est fort symbolique de quelque chose. Quoi.
Et ça l'interpelle d'ailleurs, hein, quand il voit ce trou. Oui, voilà, c'est pas un roman pour jeunesse où il voit un trou, il tombe. C'est justement plus compliqué qu'Alice.
Non, là, j'irai pas jusque-là. Quand même, Alice, c'est vachement compliqué. C'est très complexe.
Mais c'est plus visuel, je trouve. Que là, elle tombe pas dans le trou de sa chaussette, Alice.
Non, elle tombe pas dans le trou de sa chaussette. Elle tombe dans un terrier.
Dans un terrier, oui. Ouais. C'est plus concevable de tomber dans un terrier sans fin, pour moi, que de tomber dans le trou de sa chaussette. Mais ça, c'est peut-être très personnel. Hein.
Mais je voudrais pas dévoiler la raison pour laquelle il pense tomber dans le trou de sa chaussette, mais il y a une raison bien concrète à ça, qu'on découvre au fur et à mesure du livre.
Et puis après, vont rentrer dans le livre plein de personnages. Évidemment, dès le deuxième chapitre, sa compagne.
Voilà.
Estelle
qui sait toujours ce qu'il faut faire.
Et ben voilà.
Penser.
Hein, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire à elle. C'est vraiment le personnage. Serein, c'est pas ça, mais bon, elle est psychologue déjà. Et puis c'est celle qui se tient droite un peu dans l'histoire.
Oui.
Il y a d'autres et qui est enceinte d'ailleurs. Il faut quand même le dire. Il y a José. Il y a les copains inquiets de ce qui lui arrive parce que bon, il fait quand même un malaise. Et puis il y a plein de personnages qui ne sont pas des êtres humains.
Il y a Yazid. Yazid, c'est le nom du vrai grutier, d'un des vrais grutiers. Et j'avais pas envie de mettre les remerciements typiques à la fin, donc je me suis dit que si je lui donnais le prénom, il me comprendrait.
Et puis il y a la Baguera jaune.
Voilà, la Baguera jaune, qui, pour ceux qui suivent, c'est la deuxième fois qu'elle apparaît dans mes romans.
Eh bien, moi, j'ai lu que le dernier invité, donc qu'est-ce qu'il était dedans?
C'était dans Grand Madame.
Ah ben voilà, donc je sais ce qu'il
en
me
fait,
reste à faire.
En fait, dans Grand Madame, il y a un meurtre qui reste non élucidé dès le départ. Et dans Le Roi du jour et de la nuit, ben, on a la réponse.
C'est incroyable cette bagnole d'ailleurs.
Oui,
j'ai été voir. Donc c'est une Matra Simca des années 70. Hein.
Ouais.
Et surtout, elle a un immense capot avant et trois sièges.
Trois places.
Et trois sièges. Ouais. Alors François.
Et il y avait plein d'innovations techniques.
Voilà,
dans cette
c'était
voiture.
De fou et assez dangereuse parce qu'en effet, quand elle tapait devant, on était très près du bloc moteur.
Ouais, ça, mais à l'époque, on n'en parlait pas du danger
pas.
Des trucs.
Non. On roulait,
on était libre dans notre bagnole. Il y avait de la poésie de la bagnole. Maintenant, on l'a perdu complètement. Quoi. C'est...
Il y en a un qui parle très bien de ça, des road movies en bagnole comme ça, c'est Dubois, Jean-Paul Dubois.
Ah oui, j'ai beaucoup vu Jean-Paul.
Ouais, je ne sais plus dans lequel, mais c'est comme ça, je me souviens qu'il est sur la côte américaine et qu'il est dans sa voiture, comme ça, qui serait une vieille voiture aussi. Je voulais juste revenir sur Estelle aussi. Il y a un moment, Salvador, on peut le dire, je ne voudrais pas trop en dévoiler non plus, mais s'en va. Et il n'a pas vraiment un regard sur cette femme qu'il abandonne quand il vient chercher ses clés.
Ah, mais il l'abandonne peut-être pas. Hein. Ça, ouais. C'est vous qui imaginez qu'il l'abandonne. Il part en claquant la porte, mais parce qu'il a des trucs à faire.
Ouais.
Il est pressé, il est bouleversé, il est pressé. Il y a rien de purement psychologique en fait dans ce roman. Il y a juste un homme qui est dans un point de sa vie extrêmement vulnérable. Et cette vulnérabilité fait qu'il tombe en lui-même. Et dans ce lui-même, il trouve un bazar sans nom. Comme si on devait plonger en nous-mêmes, ou plutôt lorsqu'on plonge en nous-mêmes. On trouve aussi beaucoup de bazar.
C'est le fait de devenir père qui est
ce probablement, oui. Mais peut-être qu'il a, il est trop fatigué parce qu'il a beaucoup trop travaillé cet an dernier. Il y a plein de raisons. Mais en tout cas, il a cette chance, c'est qu'il tombe au plus profond de lui-même et il va avoir l'occasion, et nous avec lui, de découvrir ce que c'est que le bazar d'un esprit.
Et est-ce que c'est pour ça que ça me répond? Ça me répond autant, Anne. Je vois que, en définitive, chaque lecteur a sa propre lecture de ce livre.
Ouais. Alors moi, je vous dis ce que j'ai voulu en faire.
Voilà, bien sûr. C'est étonnant parce qu'en définitive, on ressent pas, évidemment, qu'on ressent pas toujours les. Enfin.
Non, mais le Umberto Eco l'a dit il y a bien longtemps que le livre, c'est le lecteur qui le fait. Quoi. Ouais. Chaque lecteur fait son livre, mais n'empêche que. Moi, ce que je voulais faire, c'était un roman hyper réaliste. Hyper réaliste. C'est-à-dire, on entre au plus profond de la réalité, qui est tellement réelle qu'elle en devient irréelle et onirique. Parce que peut-être que finalement, la réalité n'est pas aussi ordonnée qu'on pourrait l'imaginer. C'est le grand bordel autour de nous, quoi. Et dans nous, alors, n'imaginons pas. Ouais, si, imaginons.
Oui, parce que c'est vrai que moi je suis tout de suite tombée, hein, d'ailleurs, dans le rêve. Hein. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous étiez quelqu'un qui rêvait beaucoup.
Oui, oui.
Et vous les notez?
Non. Quand ils sont importants, je m'en souviens, donc ça me suffit.
Parce que c'est ça, moi, tout de suite, je suis partie dans ce rêve, et ce rêve qui est aussi comme un... Alors, je vous ai dit road movie, mais oui, un road novel, c'est-à-dire que bon, il prend ses clés, il remonte dans la bagarre, il se barre et il tombe en panne d'essence. Là, il y a des rencontres, des petits personnages comme ça qui égayent le livre, hein, les trois loulous là qui et qu'on retrouve d'ailleurs après. Hein.
Oui, parce que en fait, il y a juste une petite poignée de personnages, mais chaque personnage a des rôles différents, de même que dans le rêve. On peut rencontrer des figures différentes qui représentent à chaque fois notre père, notre mère. Vous voyez, ça vous est arrivé aussi.
Oui, bien sûr. Mais c'est confus, les rêves, de toute façon. Ouais.
C'est très confus. Et moi, je voulais rentrer dans cette confusion du rêve et aussi de du mental, de ce petit vélo qui circule là, qu'on n'arrive pas à arrêter et même parfois qui nous amène sur des chemins où on ne veut pas aller. C'était là que je voulais aller.
Ouais. Et puis après, il va donc partir avec Fernando. Alors, il va rencontrer quelqu'un qui va l'emmener jusqu'à la frontière, puisque son but, c'est de passer la frontière espagnole.
Oui, parce que sa bagarre tombe en panne.
Elle tombe en panne d'essence. Voilà. Il se fait vanner par les trois loulous, là, non, je ne me rappelle plus les noms. Et puis, il va rencontrer Fernando, qui pense qu'il ne va pas l'emmener, mais qui l'emmène, qui dit « Ouais, je t'emmène ». Et alors là, c'est vraiment, oui, ce dont on parlait du bois, c'est-à-dire c'est la route, il trace la route, quoi. C'est sur l'autoroute, même.
Voilà.
Et puis, pourquoi il veut aller en Espagne? Pourquoi il veut aller en Espagne?
On le dit ou...
Oui, bien sûr.
Et il doit aller en Espagne parce qu'il veut retrouver sa mère.
Et oui, parce que c'est le personnage, moi, qui m'a le plus... Alors, c'est pour ça, quand on dit chacun aimait... Bon, peut-être les rapports avec ma mère qu'il faudrait que je règle avant de... ce voyage sinueux donc, va le mener dans des endroits évidemment improbables, mais aussi dans des endroits qu'il cherche à atteindre. Et donc, il va l'amener à Choléra. C'est un vrai nom?
Alors, Choléra, ça existe vraiment.
En fait, choléra, il faut le dire comment c'est écrit, parce que quand on dit choléra, ça peut être...
C-O-L-E-R-A. Je me suis amusée dans le roman à toujours être à la frontière du rêve de la réalité. Et vous voyez, ce nom choléra, à chaque fois, ça a une tête de rêve. Mais ouais. En fait, non, c'est de la réalité. C'est bien réel. Choléra existe.
Ça existe.
Ça existe. Et dans la réalité, comme dans mon livre, on n'y va pas parce que c'est pas sur la bonne route. Il faut faire un crochet pour y aller ou alors passer par la route de la Corniche qu'on évite parce qu'elle est longue, même si elle est magnifique, cette route. Et quand on arrive à Choléra, c'est vraiment comme je le décris. C'est un endroit très étrange de la Costa Brava qui n'a pas du tout la tête de la Costa Brava, qui ressemble à un village de l'Aude, que je connais, mais qui est au bord de la mer. Et moi, j'adore cet endroit, quoi. C'est complètement décalé. Il y fait un vent de folie.
C'est pas loin derrière la frontière?
C'est juste de l'autre côté. D'accord. De Corbeau. juste de l'autre côté de Portbou. C'est à 2 heures d'ici, à 2 heures de route.
C'est bien, j'y vais à Noël là-bas. Je vais aller voir.
Il faut faire un crochet par choléra. Je ne devrais pas le dire publiquement parce qu'il faut que ça reste comme c'est.
Et donc, ça nous amène à parler de la mère de Salvador.
Oui.
C'est vrai qu'il est un personnage alors très dessiné, hein, toujours avec ses escarpins rouges, ses chaussures rouges, cette collection de chaussures rouges qui inonde la maison, parce qu'il y en a même dans la chambre de son fils. Et elle est toxique, cette mère.
Oui, mais... on dit ça aujourd'hui, toxique.
Ouais.
Elle est toxique, ouais. C'est sa mère. C'est sa mère et on ne sait pas pourquoi il doit aller la voir, lui non plus, mais il sait qu'il faut qu'il y aille.
Ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vue.
Ouais. Mais et... ça aussi, c'est embrouillé dans son
esprit. Ou peut-être pas, parce qu'il l'a peut-être revue à un moment. Elle l'a peut-être foutue dehors, parce qu'on pense que c'est là, mais non, c'est pas là. C'est ça qui est formidable dans le livre, c'est qu'on part sur une piste, puis tac, on a l'impression d'être une boule de flipper, et vous nous emmenez dans un coin pour nous détromper peu après. Mmh. Et puis, si on rajoute ce que nous, on imagine, alors là, c'est...
Ouais. J'ai écouté Annie Arnaud qui disait que quand elle écrivait, elle pensait jamais au lecteur. Elle le disait très fièrement, et moi, j'ai pensé, oh mince, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais moi, je pense à mon lecteur. Je pense complètement à mon lecteur. Je l'imagine à rigoler à côté de moi, quoi. À rigoler de mes bons tours de romancière.
D'autrice, oui, non, mais c'est vraiment ça.
Parce que j'aime bien tenir des fils et les nouer différemment, m'amuser avec ce que j'ai fait avant. Parce que, en fait, Le Roi du Jour et de la Nuit, il est vraiment en diptyque avec Graham Adams. Le road novel, il se fait dans le sens inverse. C'est-à-dire, dans Graham Adams, on va de l'Espagne à la France et vice versa dans celui-ci. Il y a plein de choses qui sont liées. Et cette mère, elle devait être mauvaise, méchante, aimante, mais qui ne sait pas s'y prendre.
Elle est aimante, oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire.
Je m'étais donné 2 points de départ. Donc, cette première phrase où Salvador est en haut de sa grue et vient de terminer son sandwich. Et je voulais arriver à l'élucidation du meurtre de Graham Adams. Entre les deux, il fallait passer par le bien et par le mal. Et s'il y avait un lien avec Graham Adams, il fallait que ce soit du côté du mal. Donc cette mère, elle ne pouvait être que du côté du mal.
Tout en étant très aimante, très protectrice. Bon, quand,
ambivalente. Ouais, elle veut
l'emmener à l'école et en définitive, bah, quand elle se réveille pas, il n'y va pas. Ouais. Et elle lui fait quand même vivre beaucoup sa proximité avec les hommes. Hein. Je veux dire, c'est difficile pour un garçon de se construire comme ça. Et puis il y a ce personnage.
Elle est très proche des hommes, oui.
Ouais,
effectivement.
On va dire qu'elle est très proche des hommes.
Et
les hommes aussi. Et surtout d'un.
Il s'appelle Joseph.
Ouais. C'est un hommage à... Qui est-ce qui a écrit un film sur qui s'appelle Joseph?
Oui, non. C'est parce que c'est un prénom catalan. Ouais, et que Joseph est donc catalan. Pour ceux qui ont lu Graham Adams, il y a déjà beaucoup d'indices.
Ça me donne envie de le lire, en tout cas. Je vais vous demander, Anne, d'avoir la gentillesse de nous lire un passage, justement, dans ce road nouvelle où il arrive à choléra.
Porte, vent, tamaris. Je suis arrivée à choléra de nuit. Mes chaussures de chantier claquaient sur l'asphalte. J'avançais seule dans le village endormi. Je savais que ma mère n'habitait plus dans le petit appartement que nous avions partagé autrefois. Je le savais, je le sentais. On dit que les mères et leurs enfants échangent des cellules pendant la gestation et que certains conservent longtemps en eux cet héritage commun. Ça expliquerait. Ma mère avait occupé mon corps et moi, yeux fermés, j'avais résidé dans le sien. Une fois, elle s'était réveillée au moment où je me levais précipitamment en pleine nuit pour aller vomir, rendue malade par un plat de la cantine. Elle savait tout sur moi. Si mes leçons étaient apprises avant même de me poser la question, si j'avais besoin de réparer la roue de mon vélo avant de l'avoir dégonflée, si mes chaussettes puaient ou si j'étais dans la merde. Moi de même, je suis capable de sentir où elle se trouve 17 ans après mon départ de choléra. Rien n'a changé. Et le fil reste solide entre ma mère et moi. Qui dans les ténèbres ne reconnaît pas le chemin menant chez lui, ne le retrouvera pas, même en pleine lumière. Mais alors que mes pas me conduisaient jusqu'à l'hôtel-restaurant La Gambine, j'ai senti le sourire qui fleurissait sur mon visage, et je me suis dit que le roi du jour et de la nuit, c'était moi, et seulement moi. Alors j'ai bombé le torse et j'ai continué tout droit.
Merci Anne.
J'ai un peu bégayé, pardon.
Il y a plein de choses qui sont belles et ça me permet de parler aussi de ce style formidable que vous avez. Enfin, moi, d'abord plein d'humour, vous l'avez évoqué, hein, que vous amusiez à nous perdre, mais vous amusez aussi dans les phrases. Il y a plein de moments où j'ai souri en lisant.
Ah, ça me fait plaisir.
Si, plein de moments. oui, vraiment. Il y a des moments qui sont très touchants, très durs. Après, toute la transformation physique aussi, hein, quand il prend ce ventre, tout d'un coup, qui lui pousse. On parlait des personnages qui sont des fois pas des personnages humain, mais bon, de cette grosse veste qu'il a toujours, de ses transformations physiques, puisqu'il va arriver dans un hôtel improbable avec un. Qui existe aussi. Avec une rencontre avec une jeune fille, une jeune femme, Léa, Léna, qui, quoi. Voilà, toutes ces pistes, tous ces personnages, c'est fourmillant. C'est un livre qui est assez difficile à raconter.
Enfin, à raconter.
Oui, je trouve que...
S'il n'est pas difficile à lire...
Il n'est pas du tout difficile à lire. Et non, pas du tout. Il est très...
J'ai eu peur.
Non, il est tout très, très facile. Enfin, il est facile à lire, il est agréable à lire. Je vous dis, il y a plein de moments où j'ai souri toute seule. Et puis, bon, ce personnage est très attachant. Les autres personnages sont très attachants. Même moi, le personnage de la mère est très attachante. Vous savez très bien... J'aimerais lire Grande Madame aussi, et peut-être même relire Le Dernier Invité, parce que moi, depuis 2 ans que j'ai lu le livre, c'est vrai que je me suis transformée aussi dans ma façon de lire quand je lis les livres. Et c'est vrai que, par exemple, des personnages très courts, comme le patron du bar, qui lui fait la gueule quand il arrive, mais qui lui fait quand même son sandwich, et voilà, tous ces petits personnages, les trois loulous devant l'hôpital, toute la scène quand il parle à l'hôpital, il y a tellement de personnages qui font quoi, des fois 5 lignes, et à qui vous donnez cher. Et ça, c'est particulièrement formidable, je trouve, dans le travail d'écrivain. Alors là, je parle juste du travail d'écrivain.
Merci.
Et puis, voilà, dans ce road nouvelle, je voudrais aussi que vous nous lisiez le regard de cette femme, de sa femme, d'Estelle, qui, à un moment, trouve une boîte et dans laquelle il y a plein de choses. Voilà.
Mère, boîte, volet roulant. J'ai regardé la boîte. Un parallélépipède en carton bleu foncé, avec une couverture plus claire sur laquelle une étiquette en papier à demi effacé ne tenait plus que par un seul et fragile point de colle. Autrefois, pleine de bonbons à l'anis, elle dégageait maintenant une forte odeur de camphre et de fer blanc qui m'a plissé le nez. Pour le camphre, je me souvenais d'avoir placé quelques gouttes d'huile essentielle dans le tiroir pour le protéger des mites. On est toujours envahi par les mites. Mais pourquoi cette odeur de fer blanc? Je me suis demandé en soulevant le couvercle. L'étiquette s'est décrochée. Un coup de vent l'a fait glisser sous le lit. L'intérieur de la boîte était immaculé, d'un blanc mat de papier machine. J'ai déposé un à un sur les draps les quelques objets qu'elle contenait. Une paire de chaussettes en laine grise, 3 galets de mer, une auto jaune, une grue miniature, rouge, et un sablier si ancien que le sable s'était collé aux parois. Puis la photo de la mère. Je me souvenais d'une femme très brune à la chevelure épaisse, et plus vaguement d'un grain de beauté sur la joue, ou au-dessus de la bouche. Alors j'ai retourné la photo. Tout s'était effacé.
C'est aussi un moment de rêve, voilà, de cette photo qui s'efface. Enfin, tout est insaisissable. Et je voudrais conclure ce passage sur la mer et sur ses souvenirs par une très belle chanson que j'ai souvent choisie, moi, quand... choisi des musiques pour
illustrer. La petite chanson qui les accompagne. Exactement. Tout le long. D'ailleurs, le texte d'avant que j'ai lu, ma mère savait tout de moi. Il y a une petite parole en italique, mais je ne peux pas lire en italique. C'est la citation de la chanson.
Ouais, qui est une chanson absolument sublime d'Arnaud qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs.
Et oui.
quelque chose dangereux, quelque chose d'une allumeuse et quelque chose d'une amère. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessus de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
Et oui, hélas, on est obligé de ne pas écouter la musique jusqu'à la fin, c'est dommage. Tiens, j'en profite pour remercier Yann qui nous accompagne aujourd'hui dans Aéropage sur Radio FM+, en compagnie d'Anne Borel. Anne, bientôt le moment de se séparer.
Déjà,
ouais, ça passe. On en parlerait pendant des heures de ce livre qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je vous conseille vraiment cette lecture, alors qui est belle, qui est étrangement déstabilisante, mais c'est ce que j'aime. On ne cherche pas un livre non plus toujours pour être stabilisé. C'est bien aussi d'être stabilisé.
Mais surtout que à la fin, on retombe sur ses pieds.
Sur ses pieds.
Et on va retrouver son souffle sans la dévoiler.
Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Mais c'est vrai que c'est inhabituel, les livres. Aujourd'hui, je lis beaucoup, Anne. Je lis un ou deux livres par semaine. Et c'est vrai qu'il y a tellement de livres qui sont... Voilà, on lit une belle histoire. Là, ce livre, il m'a remué. Voilà, il a remué des choses en moi. Il a remué des questionnements. Il m'a fait rire. Et puis toujours votre très, très belle plume, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dire et répéter. C'est que des écrivains à plume et à style, il y en a aussi de moins en moins. Il y a beaucoup d'écrivains qui racontent des belles histoires.
Mais qui sont pas déjà pas mal.
Non, mais c'est très bien. Hein. On peut avoir une... Voilà, là, il y a une belle histoire autour de ce personnage qui est très aimable. On a envie de l'aimer, par contre, Salvador.
Ah, moi, je l'aime beaucoup.
Ouais. Il n'y a pas grand-chose qu'on n'aime pas chez lui.
Oui.
Ses errements, ses coups de folie, cette attention à l'autre aussi, hein, sur Fernando, par exemple.
Quand on est écrivain, on est toujours un peu dépassé par ses propres personnages. Et parfois, on se retrouve à aimer une de ses créations comme si c'était une créature. Quelqu'un qui était en dehors de nous, alors que c'est nous qui l'avons créé. Et c'est très étrange. Et c'est vrai que Salvador m'est terriblement sympathique.
C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée chez les écrivains, mais ce serait une longue discussion. Mais voilà, sur le côté, les auteurs, les autrices, d'être omniscient sur son personnage, c'est-à-dire vraiment de le modeler complètement.
Et en même temps, d'être dépassé
par lui. Et en même temps, voilà, ouais. De se laisser un moment. Il prend son envol presque tout seul. Ouais. Quand, dans la création du personnage, un auteur échappe à l'auteur... Comment un personnage échappe à l'auteur, ça c'est... Moi je ne suis pas autrice, alors je ne peux pas savoir.
Ça se mélange, c'est du début à la fin que c'est comme ça. Hein. C'est entre maîtrise et échapper belle.
La tradition c'est de se dire au revoir en parlant du prochain roman, mais comme en préparant l'émission vous m'avez fait donc on attend le prochain roman sans en parler. On fait du teasing.
Oui, parce que c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Ouais. Si j'en parlais, je l'écrirais plus parce que
il y a quand même quelques pages d'écrites.
Il y a quelques pages d'écrites.
Ouais. On va se donner rendez-vous en février. J'ai bien tout noté. En février pour Voyez comme on danse, qui sera donc au Manzanilla, c'est ça?
Au Manzanillo.
Manzanillo.
Le petit bar qui est en face de l'Intermarché, pour ne pas faire de publicité.
Si. Pour le Manzanillo, pas pour Intermarché. Ouais.
Donc, c'est pile en face du supermarché du boulevard Clémenceau. Ouais. C'est facile comme repère. C'est un chouette petit bar où il y a des cours de tango.
Ça sera le 15 et le 22, mais Rija nous le redira en matinale pour bien vous le rappeler. Et puis en mars, pour les gens qui sont du côté de Nîmes, il va y avoir plein de dates qu'on annoncera aussi avec l'Association du Théâtre Populaire de Nîmes. Et au Gros du Roi le 6 avril, et puis en mars, à Nîmes, à Rodillan, à Calvisson, à Saint-Dionysie, mais j'en reparlerai à ce moment-là.
Ça, c'est pour Gualicho.
Voilà, pour Gualicho.
Qu'on continue de jouer toutes ces années.
Merci Anne Borel.
Merci.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir, vraiment.
Mais plaisir partagé.
Continuez à écrire pour les autres, pour les lecteurs et puis pour moi, pour avoir le plaisir de vous retrouver.
Avec plaisir.
À bientôt. J'y
retourne. Au revoir.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.